Le catholicisme contemporain a connu en France une mutation considérable à l'échelle du siècle dernier, particulièrement à l'échelle aussi des dernières décennies. Sans doute chacun des diocèses du pays n'a pas vécu la même histoire, mais tous ont connu la difficile mutation d'une religion solidement et majoritairement implantée et qui est passée au statut d'une minorité, certes active, mais infiniment moins présente et visible. Il ne s'agit pas de déplorer l'état présent du catholicisme au regard d'un passé révolu, car ce dernier ne saurait assurément être idéalisé. Mais jeter un coup d'œil sur l'histoire permet de mieux comprendre le présent. C'est la raison pour laquelle j'ai invité aujourd'hui un historien de métier, spécialiste de l'histoire du catholicisme à l'époque contemporaine. Bonjour Marcel Launay.
Bonjour.
Marcel Launay, vous êtes professeur émérite de l'Université de Nantes et vous êtes déjà venu au micro de 27 minutes pour comprendre, il y a peu, afin de nous présenter votre livre sur le pontificat d'un pape important mais méconnu du XXe siècle, Benoît XV. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur l'histoire de l'Église au XIXe et XXe siècle et vous connaissez fort bien l'histoire de votre propre diocèse, celui de Nantes, auquel vous venez de consacrer un livre intitulé « L'Église de Nantes au XXe siècle » et sous-titré « D'une terre de chrétienté à un catholicisme recomposé ». C'est une entreprise assez emblématique, malgré toutes ses particularités, de l'évolution française et peut-être même européenne du catholicisme. Mais c'est évidemment sur l'aspect plus local que nous allons nous attacher, comme vous l'avez fait dans ce livre qui fourmille d'indications tout à fait précieuses et précises sur le travail remarquable que vous avez su conduire aux archives en particulier. Alors, ce XXe siècle nantais, il est marqué essentiellement par des grands épiscopats, et c'est de cela que nous allons parler. Peut-être que nous allons suivre d'ailleurs tout simplement la trame chronologique qui est celle de votre ouvrage, en commençant par cette fin du XIXe siècle, ce début du XXe siècle, qui voit arriver un évêque, Mgr Pierre-Émile Rouart. Il arrive en 1896, juste après un autre évêque qui a fait un passage de météore très rapide.
Oui, Mgr Laroche est resté peu de temps dans le diocèse, et c'est l'évêque qui, en quelque sorte, va incarner, avec un succès limité d'ailleurs, la politique du ralliement qui avait été préconisée par le pape Léon XIII.
Ralliement dont il faut rappeler que c'était le ralliement,
le
à,
ralliement
la République.
À la République. Parce qu'on puisque il est évident que les catholiques à cette époque étaient tout à fait hostiles à ce principe, et le pape considérait que cette hostilité était finalement inoffensive, non seulement sur le plan des principes, mais aussi sur le plan des réalités. Donc il avait encouragé, après le fameux toast d'Alger qu'avait prononcé le cardinal Lavigerie, à inviter les catholiques donc à se rallier non pas aux errements de la République, mais aux principes même.
Voilà, donc arrivera en 1896, après cet évêque météore, Mgr Laroche, qui n'est resté que 2 ans, arrivera donc Mgr Pierre-Émile Rouart, et lui n'est pas exactement dans cette lignée-là.
Alors, Mgr Rouart, en fait, est pour le respect des principes, même si personnellement, il le dit et il le confie à son secrétaire, il est au fond royaliste. Mais il considère, au début de son ministère, qu'il faut, en quelque sorte, respecter les autorités légitimes. Et donc, c'est un homme, je dirais, de conciliation. Mais il va se heurter bientôt, évidemment, au problème de la séparation de l'Église et de l'État.
Alors, nous sommes dans un département très, très majoritairement catholique. Les pourcentages de messalisants, les pourcentages de personnes qui font leur Pâques sont impressionnants, hein. On est à presque 100%,
enfin, on est à plus de 90%. Un certain unanimisme religieux tel que l'ont montré les enquêtes Boulard de sociologie religieuse pour ce début du XXe siècle. On peut dire qu'on est véritablement là dans une terre de chrétienté.
Alors chrétienté, ça veut dire que finalement tout est imbriqué, le politique et le religieux.
Alors, il est évident qu'il y a eu un lien assez étroit dans le diocèse de Nantes, et qui avait d'ailleurs été assez marqué par Siegfried dans son tableau politique de la France de l'Ouest, entre une série de notables qui sont très proches de l'Église et qui, eux, sont, disons, majoritairement royalistes et qui s'opposent, bien entendu, à la République. Donc, il y a une certaine alliance, il faut le dire, à cette époque, au moins, entre, je dirais, non pas le trône, mais les représentants du trône et l'autel.
Oui, d'ailleurs, quand on regarde la liste des représentants élus aux élections législatives, entre autres, on s'aperçoit qu'il y a une forte prééminence des marquis, des comtes.
C'est la République des marquis, de Girmont, de Rochefoucauld, de ses maisons, et toute une série, une litanie en quelque sorte de notables qui d'ailleurs soutiennent officiellement l'Église et qui sont des gens qui contribuent aux œuvres caritatives et aussi à la défense, on le verra, de l'enseignement catholique.
Oui, alors ces familles, ces noms d'ailleurs, vous venez d'en citer quelques-uns, vont garder une importance jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à ce que le Conseil général, appelé maintenant Conseil départemental, bascule il y a seulement quelques petites décennies.
Absolument. C'est au Conseil général une majorité, disons, conservatrice pendant toute cette période.
Alors, revenons donc à ce début de XXe siècle très, très houleux, puisque c'est le moment de 1901 avec la loi sur les associations et surtout les lois sur les congrégations et puis la loi de séparation de l'Église et de l'État. Comment est-ce que la chose a été vécue dans le diocèse de Nantes ?
Alors, elle a été extrêmement mal vécue. D'abord, en ce qui concerne la politique anticongréganiste, puisqu'il a fallu assister à l'expulsion de congrégations, en particulier à partir de 1902-1903 avec le ministère Combes, à l'expulsion de congrégations enseignantes, la fermeture des écoles et également l'expulsion de religieux. Et puis par la suite, évidemment, en 1905, la séparation de l'Église et de l'État, suivie en 1906 de la question des inventaires, qui là a mis le feu aux poudres.
Alors, il y a eu des manifestations qui ont failli dégénérer plus que... qui ont failli dégénérer, mais qui n'ont pas tout à fait dégénéré quand même, grâce peut-être à la prudence de l'évêque de l'époque.
Monseigneur Rouard a été de ce domaine, je dirais, un homme d'apaisement, en disant qu'il fallait protester, bien entendu, mais qu'il ne fallait pas s'opposer par la force. Si bien que les inventaires où il y a eu vraiment des affrontements difficiles sont assez rares dans l'ensemble.
Alors, vous avez fait allusion tout à l'heure... À la guerre scolaire, elle n'est pas encore vraiment commencée, mais avec l'expulsion quand même des congrégations et la réduction à l'état laïque des congrégations qui voulaient continuer à œuvrer, évidemment, on est dans un climat tout à fait perturbé.
Alors, le problème pour les religieux a été le suivant, soit quitter la France, l'exil, soit la sécularisation, c'est-à-dire le retour à l'état laïque. Et pour maintenir les écoles libres, catholiques, eh bien, une grande majorité de religieux se sont sécularisés, si bien qu'on ne disait plus le frère un tel, mais monsieur un tel. Et c'est ainsi que l'enseignement libre dans le diocèse, non seulement n'est pas mort, mais je dirais même, s'est développé grâce à cette politique.
Ça a été le cas, je crois, de la congrégation des très, très active, très présente dans le diocèse, des Sœurs de Saint-Gilda.
Les Sœurs de Saint-Gilda qui se sont sécularisées.
Oui. Alors, on reprendra certainement cette question de la guerre scolaire parce qu'elle va nourrir un conflit qui durera jusqu'à une époque assez récente, au bout du compte. Mais peut-être convient-il de rester encore un instant sur l'épiscopat de Mgr Rouard. Il le termine, cet épiscopat, avec la guerre, avec la déclaration
de
la guerre.
Oui, alors, une chose curieuse, c'est que la durée des épiscopats dans le diocèse de Nantes correspond souvent à des dates de la politique nationale.
Oui, c'est curieux.
Par exemple, 1869-70, fin du Second Empire, c'est la mort de Mgr Jacquemet. 1914, c'est la mort de Mgr Rouard. Et plus tard, nous le verrons, Mgr Villepellet va arriver en 1936, au moment du Front Populaire. Donc il y a une espèce de simultanéité qui est assez curieuse.
Oui, c'est une coïncidence.
Hein, une coïncidence, bien sûr.
Il faut le dire ainsi. Alors, un mot sur l'importance du clergé. Enfin, le nombre de prêtres à cette époque est très élevé dans la
population. Oui, le diocèse a près de 1000 prêtres, ce qui fait d'ailleurs non pas une singularité dans l'Ouest, parce qu'il y a beaucoup d'autres diocèses qui ont aussi un nombre important de prêtres, mais le recrutement est assuré. En particulier, alors là, c'est toute la question de la formation à partir des petits séminaires qui sont les pépinières de ces vocations sacerdotales Et la grande majorité des prêtres sont passés par le petit séminaire avant d'accéder ensuite au grand séminaire.
Il y a même deux petits séminaires en Loire-Atlantique.
Avec deux petits séminaires, et d'ailleurs par la suite on en créera d'autres sous l'épiscopat de Mgr Lefebvre de Lamothe. Mais on peut dire aussi que la caractéristique de ce recrutement est un recrutement qui est essentiellement rural, non pas forcément tous fils d'agriculteurs, mais du monde des campagnes. Et les vocations, en particulier masculines, qui se recrutent dans les villes, vont plutôt vers des congrégations religieuses.
Ah oui, donc c'est le clergé diocésain qui est d'origine essentiellement rurale, c'est ça que vous nous expliquez. J'ai vu les chiffres que vous donnez, il y avait en moyenne 25 ordinations par an, et même certaines années, presque deux fois plus.
Oui, le diocèse de Nantes est un diocèse très fertile, ce qui vous explique d'ailleurs que il a permis des vocations missionnaires de se développer. Le diocèse de Nantes a été un diocèse à vocation également missionnaire ad extra.
Oui, c'est le dernier chapitre de votre livre qui est consacré précisément à cette ouverture au monde du diocèse de Nantes, ouverture d'ailleurs qui se vérifie encore au moment où nous parlons, puisqu'il y a un certain nombre de membres du clergé diocésain qui ont été, qui sont encore.
Oui, c'est une des caractéristiques de ce diocèse. Aussi, si vous voulez, à mettre en rapport avec les autres diocèses de l'Ouest, d'être des pépinières de vocation missionnaire, ce qu'on a souvent oublié par l'importance des vocations aussi bien masculines que féminines.
Oui, vous parlez un petit peu de ces vocations féminines dans ce chapitre justement consacré aux missionnaires, et je sais, parce que vous me l'avez dit en off, Marcel Launay, que vous regrettez, ou du moins certains regrettent, que vous n'ayez pas pu donner davantage d'importance d'ailleurs à ces femmes qui, non seulement au début du siècle, des laïcs d'ailleurs, se sont mises à faire le catéchisme, mais aussi surtout ces religieuses sur lesquelles on n'a pas encore beaucoup de travaux qui sont...
On a des monographies concernant certaines congrégations, mais on n'a pas de synthèse, de même qu'il manque également quelque chose sur les contemplatifs qui par définition évidemment sont beaucoup plus discrètes.
Alors arrive, après le mandat de Mgr Rouard, un évêque dont nous allons reparler après la pause musicale, mais dont nous pouvons quand même dire un mot dès maintenant, c'est Mgr Lefebvre de Lamothe. Alors là, c'est un personnage. Il arrive en 1914 et il ne partira qu'au moment du Front populaire, juste après.
Absolument. Mgr Lefebvre de Lamothe est un Breton d'origine et qui a été supérieur d'un collège à Dinan, le collège des Cordeliers, et qui ensuite a fait des études à Rome et au séminaire français de Rome, ce qui explique d'ailleurs la proximité qu'il a avec tout ce courant qui va se développer, qui est celui de l'Action française. Et il restera très attaché à ses professeurs, et en particulier au supérieur du séminaire français de Rome, le père Le Floch, qui sera compromis dans ces histoires d'Action française. En tous les cas, quand il arrive à Nantes, on peut dire que c'est un des derniers représentants de ces évêques qui sont à la fois, je dirais, une sorte de grand seigneur ou de préfet, avec un sens de la présentation, de la dignité, qui est évidemment un caractère qui est lié à son tempérament personnel.
Ce qu'on observe tout à fait quand on regarde à la page 61, la photographie que vous avez figurée dans votre ouvrage, Marcel Launay, ouvrage dont je rappelle qu'il s'intitule « L'Église de Nantes au XXe siècle ». C'est le moment que vous nous offriez la pause musicale traditionnelle dans cette émission, 27 minutes pour comprendre, et nous en avons parlé tout à l'heure, et vous m'avez dit votre affection pour l'orgue, votre affection pour Bach. Alors nous allons écouter Christian Hoth, qui est un de nos très bons organistes, dans un concert qu'il a donné à Saint-Pétersbourg, dans Passacaille, en ut mineur.
Thank you.
Nous sommes en compagnie de Marcel Launay, professeur émérite de l'Université de Nantes et grand spécialiste de l'histoire du catholicisme contemporain. Contemporain, ça veut dire évidemment pour les non-historiens qu'on remonte tout de même au 19e ou au 20e siècle. Alors Marcel Launay, juste avant cette pause musicale, vous nous parliez d'un évêque au profil tout à fait combatif. D'ailleurs, vous avez intitulé ce chapitre « Un épiscopat de combat » parce que Monseigneur Lefer de la Motte, qui va donc régner, j'utilise le mot à dessein, sur le diocèse de Nantes de 1914 à 1935, aura deux préoccupations. Le développement des écoles libres, comme on les appelle, les écoles catholiques, et puis aussi, et c'est un point très controversé, l'Action française. C'est quelqu'un qui est Action française et qui, lorsque le pape de l'époque, le pape Pie XI, désavoue l'Action française, je crois que c'est en 1926, lui ne suit pas vraiment de gaieté de cœur et même peut-être pas du tout les consignes vaticanes.
Eh bien, ça c'est un aspect de cet épiscopat, de ce dernier prince de l'Église en quelque sorte, parce que par la suite, les évêques qui suivront n'auront pas du tout cette caractéristique. Oui, alors premier thème, d'abord le problème de l'école libre. Il est sûr qu'il y a là un enjeu capital pour l'évêque qui, d'ailleurs, à chaque visite pastorale, sur les registres, signe à quand une école libre lorsqu'il n'y en a pas. Et ce qui l'amène d'ailleurs à défendre contre la République laïque cette école, et également alors en 1924-25, au moment du cartel des gauches, lorsqu'il y aura cette remise en cause de la présence des congrégations, et défense de l'école, cette grande manifestation qui aura lieu à Nantes avec 80 000 hommes qui défileront pour protester contre ces mesures. Alors ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est celui de sa compromission avec l'Action française qui correspond, je l'ai dit tout à l'heure, à sa formation à Rome. Il est très proche du père Le Floch, qui d'ailleurs sera mis sur la touche par le pape Pie XI. Et lorsque Rome condamne, eh bien on peut dire qu'il va traîner des pieds en quelque sorte, et il se fera remonter les bretelles en quelque sorte par le nonce et également à Rome par la secrétaire d'État. Il s'est officiellement rallié, mais officieusement on peut dire que son cœur penchait vers l'Action française.
Alors, donc il décède en 1935 et il est remplacé en 1936 par Monseigneur Villepelet. Pour suivre le trajet de votre livre, j'utilise les évêques, mais c'est une manière de faire, parce qu'en fait, c'est le climat de l'époque que nous sommes en train d'essayer d'examiner. Mais enfin, il est vrai que, surtout à ces moments-là, les évêques ont une importance considérable. Donc, Mgr Villepelet, ça va être autre chose.
Oui, on peut dire que c'est un autre style encore qu'il est, par sa personnalité, une grande dignité. Mais je dirais que d'autres soucis vont le toucher. En particulier, alors, c'est l'Action catholique. Alors, est-ce que lui, personnellement, qui est un lettré, un homme très cultivé, réputé pour ses écrits et ses sermons, est-ce qu'il était lui-même tout de suite orienté vers l'Action catholique? Peut-être pas, mais en tous les cas, il a trouvé autour de lui l'intelligence d'hommes, de vicaires généraux, comme le chanoine Guillot, qui l'ont poussé vers l'Action catholique. Et la grande affaire de cette période, c'est le développement en particulier des mouvements d'Action catholique des jeunes. La JOC, la JEC, la JAC, qui vont prendre un essor considérable avec des hommes qui ont joué un rôle important, en particulier dans le jeune clergé. Je pense par exemple à l'abbé Chaignon, qui a été un des premiers aumôniers de la JOC. Et c'est une des caractéristiques de cette période d'avant-guerre, donc les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale.
Mgr Villepelet a eu le malheur, si on peut dire, de se trouver l'évêque de Nantes pendant l'occupation.
Oui, alors, l'attitude de l'évêque, Mgr Villepelet, a été critiquée, même parfois vilipendée. En réalité, Mgr Villepelet est un homme qui se veut hors des partis et qui a suivi, au fond, la politique de l'épiscopat français, sans inféodation à Vichy, mais en reconnaissant également les avantages que l'Église pouvait en tirer. Alors ça, c'est un premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est la présence quand même de cet évêque pendant toutes ces années difficiles auprès des populations qui ont été victimes des bombardements, qui a permis la poursuite en quelque sorte de la vie religieuse dans le diocèse. Et là, de ce côté-là, on peut dire que l'évêque n'a pas démérité. Alors on peut toujours polémiquer sur son attitude en disant qu'il n'a pas été un des grands résistants qu'on aurait pu espérer. C'est possible, mais ça ne correspondait pas du tout à son tempérament.
Il a, si je vous ai bien lu, Marcel Launay, il a quand même proposé aux Allemands de s'offrir en otage à la place d'autres.
La première réquisition qui a été faite lorsque les Allemands sont arrivés à Nantes, Mgr Villepelet s'est proposé et a été otage pendant 48 heures. Mais contrairement à ce qu'on a dit par la suite, au moment où il y a eu l'affaire des 50 otages, là, il n'a pas été, il ne s'est pas proposé, d'ailleurs lui-même a démenti de s'être proposé comme otage.
Alors, Mgr Villepelet, qui a terminé son mandat en 1966, ça nous amène à une époque où beaucoup de personnes aujourd'hui sont toujours vivantes, et donc ont bien pu connaître la fin de cet épiscopat. Mgr Villepelet a eu affaire, après la guerre, et en particulier dans les années 60, au moment de Vatican II d'ailleurs, à ce grand remue-ménage dans le diocèse de Nantes.
Alors, les premiers signaux de la crise qu'on va appeler la crise catholique, qui ne sont pas propres d'ailleurs au diocèse de Nantes, hein, qui sont valables dans l'Ouest et d'une façon générale à la France, se manifestent déjà à la fin de l'épiscopat de Mgr Villepelet, avec une baisse du recrutement dans les petits séminaires, une certaine baisse donc par conséquence des vocations sacerdotales, et puis la remise en cause par certains curés de la politique concernant l'enseignement libre, puisqu'il y a eu la fameuse lettre des curés nantais qui contestait en quelque sorte l'investissement du diocèse dans ce domaine.
Oui, avec la naissance de la floraison même, de mouvements de toutes sortes, de oui. Contestations. Vous parlez du cercle Jean XXIII en particulier.
Bien sûr.
Et je me souviens d'ailleurs que Guy Gouraud, qui est le fondateur du cercle Jean XXIII, avait, lui, tout en étant un opposant, beaucoup d'estime pour Mgr Villepelet, dont il parlait avec beaucoup de vénération, parce que c'était un homme cultivé, m'a-t-il toujours dit.
Absolument, oui, tout à fait.
Alors, laissons cela. Arrive la fin de l'émission et aussi la fin de votre histoire du diocèse, puisque vous l'achevez avec le dernier épiscopat, celui de Mgr Vial.
Alors, Mgr Vial est un tempérament tout à fait différent, assez austère, timide, diront certains, et qui, lui, a une préoccupation essentielle, qui est celui de l'action catholique, ce qu'on, d'ailleurs, quelquefois, on lui a reproché. Alors, Mgr Vial va se trouver affronté, comme beaucoup d'autres évêques au niveau national, à cette crise des vocations, d'abord, la fermeture des petits séminaires, et puis ensuite la diminution des vocations sacerdotales, la crise de 1968, et aussi ses prises de position qui sont celles d'un évêque extrêmement social, ce qui va l'amener justement en 68 à invoquer l'Esprit Saint, ce qui va lui être beaucoup reproché. On va faire de Mgr Vial un évêque « rouge », entre guillemets, et on fera ce mauvais jeu de mots qui le blessera beaucoup. On parlera de lui de Mgr Vial des Crochets, ce qui est pour lui quelque chose d'infamant. En tous les cas, il a maintenu, contre vent et marée, cette situation en réorganisant d'ailleurs le diocèse, parce qu'il est évident que tout ceci va entraîner des conséquences graves pour les structures même ecclésiales.
Alors, Marcel Launay, vous ne parlez pas dans votre livre des derniers évêques, Mgr Marcus, Mgr Soubrier ou l'actuel évêque Mgr Jamme, mais vous avez quand même un chapitre qui se veut illustratif d'ailleurs de votre sous-titre, de conclusion, puisque vous parlez désormais du passage d'une terre de chrétienté à un catholicisme recomposé. Quelques mots sur ce catholicisme recomposé.
Alors, tout simplement parce que les forces sont tout à fait différentes. Et on constate, comme tout un chacun, et ce n'est pas propre au diocèse, la diminution donc des vocations sacerdotales et religieuses, le fait de la pratique qui diminue également très fortement, la religion devient une affaire privée, et il n'y a plus ces grandes manifestations d'ensemble de chrétienté, sauf exception, lorsque le diocèse de Nantes, par exemple, avec Mgr Soubrier, organise de grandes manifestations. Mais on est obligé de constater qu'il y a la nécessité de recomposer ses forces avec les restructurations de paroisses, le rôle des laïcs de plus en plus important, et avec aussi, il faut le dire, le développement du diaconat pour ceux qui donc peuvent, dans certains cas, intervenir justement dans cette vie ecclésiale.
Vous parlez aussi de la vitalité du peuple de Dieu, pour utiliser l'expression que Vatican II nous a suggéré.
La nouvelle ecclésiologie de Vatican II qui insiste sur le sacerdoce universel.
Voilà. Donc on est loin de cette dichotomie que les évêques du début du siècle, au XXe siècle en tout cas, proposaient avec d'un côté le pasteur et de l'autre côté le troupeau, et c'était vraiment une hiérarchie. Le troupeau, c'était vraiment à apprendre au sens quasiment...
hiérarchique et même, je dirais, militaire.
Voilà. Merci Marcel Launay, et puis dans l'attente de vos prochains ouvrages, parce que je vous sais très actif, peut-être consacrez-vous un jour ou l'autre une suite en particulier pour nous expliquer la place des femmes dans le diocèse de Nantes.
Et volontiers.
Ah ben écoutez, je vous inviterai à ce moment-là. Merci Marcel Launay, et à bientôt donc.